France Culture.
La science CQFD, Antoine Beauchamp.
Depuis 100 ans, la physique quantique ne cesse de nous déboussoler tout en suscitant un intérêt toujours croissant. Comment cette physique a-t-elle changé notre vision du réel et quelles expériences lui font franchir de nouveaux pas vers un monde encore plus étrange ? En un siècle, la physique quantique nous a appris que le monde n'est ni continu, ni parfaitement déterministe, ni vraiment local. Et c'est grâce à ces bizarreries que nos GPS fonctionnent, que nos ordinateurs tournent et que l'on cherche à développer des machines quantiques capables de résoudre des problèmes insolubles. Mais au-delà de la puissance des développements concrets rendus possibles par la physique quantique, la question de son sens continue d'être posée et d'agiter la communauté des chercheurs qui ne cessent de repenser la théorie quantique. Vers quel monde au pluriel nous emmène la physique quantique et quelle révolution théorique se prépare aujourd'hui? La quantique change sa physique d'épaule. Bonjour Hippolyte Dourdan.
Bonjour.
Vous êtes postdoctorant à l'Institut des sciences photoniques de Barcelone. Vous avez publié aux éditions d'Uno le livre De l'autre côté du miroir quantique. Bienvenue à vous. Nous sommes également en ligne avec Shane Mansfield. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la recherche chez Candela. Et bonjour Mathilde Fontaise.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef d'Epsilon, notre magazine partenaire. Et vous avez coordonné le dossier intitulé « Métaphysique quantique, les premières expériences » à la une du magazine Epsilon en ce mois d'octobre. Dossier qui nous servira évidemment de fil rouge tout au long de cette émission. Bienvenue à tous les trois et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez, comme chaque jour, retrouver tous les liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette discussion sur le site de la science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky, @science CQFD. Et tout de suite, donc, on ouvre notre dossier quantique aux frontières de la physique et de la métaphysique qui va nous conduire à nous poser des questions vertigineuses, comme celle de la compréhension et de la description du monde, mais aussi de l'existence même du réel, indépendamment de nous qui l'observons. On va même aller plus loin, puisque pourquoi pas, on va même se poser la question de l'influence de l'observateur sur les phénomènes quantiques. Rassurez-vous, on va quand même faire tout ça avec de la pédagogie, hein. On va essayer de pas trop se faire de nœuds au cerveau, et on va vous proposer un rappel de l'histoire et de l'évolution de la physique quantique depuis un siècle, et on va bien sûr, pourquoi pas encore, profiter de cette émission pour parler de l'émulation incroyable qui existe actuellement dans le monde de la recherche en physique quantique. Mais avant ça, Mathilde Fontaise, j'aimerais vous poser une double question sur ce dossier que vous avez réalisé dans le magazine Epsilon. Pourquoi avoir fait le choix de ce sujet, la physique quantique, et pourquoi avoir fait le choix de ce titre, Métaphysique quantique, les premières expériences, qui nous emmène déjà au-delà de la physique vers des considérations philosophiques?
Ben c'est justement l'émulation dont vous venez de parler, hein. C'est une émulation théorique qu'on a sentie à la rédaction dans la communauté des physiciens qui travaillent sur la théorie quantique. Les expériences, ce sont des expériences de pensée. Et le terme métaphysique, c'est Hippolyte Dourdan tout à l'heure pourra peut-être revenir là-dessus, mais c'est cette idée que la théorie va se poser des questions sur elle-même, ou qu'on va essayer disons d'en sortir ou de la regarder un peu d'extérieur, quoi. Ces expériences de pensée qu'on a identifiées et qui sont un peu, je peux les teaser déjà un peu, on a des causes et des effets qui se superposent, on a des observateurs qui interviennent dans les résultats des expériences. Toutes ces questions-là, qui sont des questions anciennes en quantique, sont renouvelées en ce moment. Et c'est cette émulation-là qui nous a donné envie de faire le dossier et de donner le micro à toute cette communauté de jeunes chercheurs, de jeunes physiciens qui travaillent sur ces sujets en ce moment.
Et Hippolyte Dourdan, vous faites partie de cette communauté de jeunes chercheurs qui sont, qui sont en plein dans le vif du sujet de cette actualité quantique. Ce terme de métaphysique, pour vous, c'est pas un gros mot ?
Pas du tout, pas du tout. Alors en fait, la discipline de recherche, la façon dont on la dénomme, on dira plutôt les fondements quantiques, quantum foundations en anglais. Mais métaphysique, ça représente vraiment parfaitement ce qu'on fait. On peut jouer même un petit peu avec la polysémie du mot. Métaphysique, qu'est-ce que c'est ? À la base, c'est la branche de la philosophie qui étudie le réel, la nature, qu'est-ce qui est. Donc métaphysique quantique, c'est exactement cette discipline-là, mais avec les outils de la théorie quantique. On peut twister un petit peu le mot, on peut aussi interpréter le mot méta comme ce qui est à propos d'eux. Il y a une histoire un petit peu d'autoréférence. Vous savez, les métadonnées, par exemple, c'est des données sur des données. Et ben, du coup, ce dont parle Mathilde et ce dont parle le dossier, on va faire un petit peu de la quantique sur de la quantique. On va faire ce qu'on appelle de la théorie quantique d'ordre supérieur, et c'est ce que je pense qu'on va parler.
On va en parler, bien sûr, et là, c'est important, Hippolyte Dourdan, que vous évoquiez cette notion de réel, puisque il y a 100 ans, se développaient vraiment les fondements de cette physique-là. Chez Mansfield, on a consacré dans la science CQFD plusieurs émissions à ce centenaire de la physique quantique. On va bien sûr partager tous les liens pour réécouter cette émission, mais on peut peut-être poser une grande question. Il y a 100 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ces pionniers de la physique quantique ont-ils bouleversé notre rapport au réel?
Je pense qu'il y a 100 ans, c'est le moment où on a réussi à mettre ensemble des bribes de réponses à des crises qu'ont vécues dans le monde de physique au fil d'une vingtaine d'années. Les expériences troublantes qui menait à une compréhension du monde microscopique qui n'était pas lisse. Ça, c'est quelque chose qu'on sait du monde microscopique aujourd'hui. On sait que à une certaine échelle, il faut passer une description en termes d'atomes. C'est pas juste un monde de matière en continu. Mais c'est quelque chose qui vaut aussi pour l'énergie, non seulement pour la matière, mais pour l'énergie. Et donc, on voit ça avec l'énergie émise par des atomes, par exemple. Ça vient pas. Toutes les énergies sont pas possibles. Si on regarde les spectres d'énergie émis par des atomes, ça va venir dans des quantités bien définies, discrètes. Et on travaillait sur ces expériences. On travaillait sur des réponses théoriques pour expliquer tout ça. Mais je pense que c'est que en 2000 ou en 1925 qu'on a réussi à avoir une sorte de théorie complète avec la mécanique matricielle d'Heisenberg notamment, et suivie peu après par l'équation d'onde de Schrödinger. Qui donne une sorte de théorie complète de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la théorie quantique.
Hippolyte Dourdan, quelles sont les propositions que font cette constellation de chercheurs? On a entendu le nom de Werner Heisenberg, on peut penser à Max Born, Erwin Schrödinger, Niels Bohr, Paul Dirac dans ces années 20-30. Qu'est-ce qu'ils proposent pour reconsidérer totalement à l'aune de la physique théorique et quantique, donc, le réel?
Alors, il y a, on pourrait presque rentrer déjà dans le jeu des interprétations, mais je vais essayer de me calmer un petit peu. Comme l'a parfaitement dit Shane, le premier phénomène en fait qui va rentrer en considération, c'est vraiment cette quantification de l'énergie. Donc, avant la mécanique quantique matricielle de Heisenberg, on a ce qu'on appelle la théorie des quantas, qui est la préhistoire de la physique quantique, avec Max Planck et avec Einstein en 1905. Et donc on commence à comprendre en fait que le monde de l'infiniment petit est très 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 différent du nôtre, que la logique semble un petit peu bizarre, justement on parle d'énergie discrète et pas continue, etc. Avec Heisenberg va venir peut-être en 1925 un des points clés de cette mécanique quantique, c'est en fait l'idée que quand on va poser une question à un système, je parle de façon assez abstraite. Une question, c'est quoi? C'est on va faire une mesure d'une propriété d'une particule. On va, par exemple, demander à un photon, une particule de lumière ou à un atome, quelle est ta position? C'est ça, une question qu'on lui pose. On peut aussi très bien aussi lui demander quelle est ta vitesse. Et ce que va découvrir Heisenberg avec sa mécanique matricielle, c'est que l'ordre de cette question va avoir une importance sur la réponse que va nous donner la particule. Si on lui demande d'abord quelle est ta position, puis ensuite quelle est ta vitesse, il va nous donner une certaine réponse. Mais si on avait demandé quelle est ta vitesse d'abord et ensuite quelle est ta position, il nous aurait peut-être donné une réponse différente. Et donc là, c'est là où on sent qu'il y a quelque chose qui se joue qui n'est pas du tout intuitif pour nous, qui va être différent de notre logique classique. Ça ne veut pas dire que c'est absurde. On a tout un outil, un attirail mathématique qui est justement ce qu'a apporté Heisenberg. Ça s'appelle l'algèbre linéaire et les matrices, pour dire les gros mots mathématiques. Mais voilà, c'est ça qui va permettre ça. Il se trouve que quand Heisenberg développe sa mécanique matricielle, il y a pas mal de chercheurs qui ne sont pas très contents, parce qu'il va en fait uniquement s'intéresser à ce qu'on peut observer. Alors que jusque-là, la physique vraiment essaie de créer une histoire de la nature complètement indépendamment de ce qu'on peut observer ou non. Le but, c'est d'avoir vraiment une forme d'histoire de l'univers, de la nature, de son comportement. Et Heisenberg dit, bah non, en fait, on va juste se focaliser sur ce qu'on peut observer. Donc, il y a notamment Einstein qui tire l'alarme, qui dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Et il va être très content quand Schrödinger, l'année d'après, va développer sa mécanique ondulatoire, qui est, en fait, à l'époque, une théorie alternative qui fonctionne a priori aussi bien que la mécanique matricielle de Heisenberg. Et donc, on se retrouve pendant 2-3 ans avec deux théories concurrentes, mécanique matricielle et mécanique ondulatoire, qui sont complètement différentes, parce que la mécanique ondulatoire de Schrödinger, elle, elle va vraiment décrire l'évolution d'un objet. Un objet super bizarre, qui s'appelle la fonction d'onde, ou un état quantique. Mais quand même, on reste un petit peu dans la philosophie de la physique qui s'est développée jusque-là. Et finalement, quelques années plus tard, donc il y en a plusieurs, il y a, il me semble, Dirac qui était sur le coup, Jordan aussi peut-être, et puis on retient surtout le nom de Feynman, Feynman en 1932, qui va montrer en fait tout simplement que ces deux mécaniques-là sont les mêmes. Mécanique matricielle, mécanique ondulatoire, c'est la même chose, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui encore la mécanique quantique, et le formalisme que va développer Feynman pour réconcilier ces deux théories, c'est exactement celui qu'on utilise aujourd'hui. Il y a des nouveaux développements dont on parlera peut-être plus tard, mais c'est celui qu'on enseigne en tout cas à l'école. Moi, j'ai appris la mécanique quantique comme ça, j'imagine que Shane l'a aussi apprise comme ça. Et c'est vraiment le formalisme de Heisenberg qui date de 1932, du coup.
Mathilde Fontes, donc il y a des débats extrêmement houleux. C'est vraiment à la fois un âge d'or de cette première physique quantique, à la fois un moment où les bras de fer sont conséquents. On comprend, ça a trait, la physique quantique, à une compréhension très très subtile de comportement invisible à l'œil nu, de la partie infime de la matière. Ce côté subtil, ce côté complexe, ce côté contre-intuitif, parfois vertigineux de la physique quantique, il n'empêche pas très rapidement des développements extrêmement concrets dès les années 40, 50, 60 dans le domaine de l'électronique. Si on poursuit à grands pas cette histoire de la physique quantique, quels sont justement ces développements inespérés, technologiques, grâce à la physique quantique?
Je vais laisser nos invités répondre avec précision, mais moi, ce que j'observe juste de très très loin en tant que journaliste, c'est vraiment cette idée que on a dès le départ effectivement un débat philosophique ou métaphysique ou enfin ontologique sur de quoi parle la quantique, est-ce qu'on décrit encore la nature quand on fait de la quantique, et on le voit très bien avec l'exemple de quand on veut mesurer une position, on peut plus mesurer une vitesse, et donc quelque part la mesure agit sur l'objet. Donc qu'est-ce qu'on mesure, et d'autre part un espèce de vent incroyable de découvertes qui sont pas, on parle souvent du laser, on parle souvent de, je sais pas, de l'IRM ou que sais-je, mais en fait c'est toute la microélectronique moderne qui va se, donc c'est pas une découverte à un moment, c'est même pas le transistor au Bell Labs, c'est en fait tout un, ce corpus là est incroyablement efficace pour faire fonctionner des choses toutes petites, et ça va permettre derrière d'embarquer toute la microélectronique d'un côté, et de l'autre en science, mais c'est aussi une application, ça va permettre de construire une physique des particules qui va être opérationnelle et qui va permettre de décrire on va dire presque le Big Bang, toutes les interactions des particules entre elles, c'est sur cette base que vont être menées les mesures qui vont être faites au CERN. Enfin, donc on a en fait toute une physique moderne et des applications du côté des applications industrielles et du côté théorique qui va découler de ça, mais comme une énorme vague. Et quelque part, ça va mettre la question de l'ontologie et la question de quoi parle la physique quantique un peu de côté. Un peu en sourdine devant ces énormes réalisations.
Donc finalement, la puissance de développement permise par cette physique quantique va un petit peu placer dans l'ombre tout le sens qu'on va donner à cette physique, Shane Mansfield. Comment vous percevez justement cette évolution très rapide et cette intégration très rapide de la physique quantique dans des applications très concrètes dès les années 40, 50, 60, peu de temps finalement après la théorisation?
Oui, parlons avec ma casquette du monde de la technologie maintenant. Je pense qu'on peut parler un peu de ce que ça a donné côté industrie. Mathilde a parlé des transistors. C'est la base de tous les systèmes d'informatique qu'on a aujourd'hui. Et bien sûr aussi, il y avait le laser. Il y avait des choses qui sont très importantes aussi, qu'on utilise dans les hôpitaux, des scanners, RMI, je crois qu'on dit.
IRM.
MRI. IRM, pardon. Excusez-moi. Et toutes les technologies supraconductrices, etc. Qui sont non seulement à la base de pas mal de produits commerciaux qu'on trouve sur les marchés, etc., mais qui sont aussi la base des laboratoires de recherche fondamentale d'aujourd'hui aussi. Et c'est quelque chose que je tiens toujours à souligner. C'est le fait que c'est toujours un passage qui s'emprunte dans les deux sens, entre la science fondamentale, très fondamentale, et les aspects industriels. Et on voit à peu près la même chose aujourd'hui, même avec les avancées d'aujourd'hui, mais je pense que c'est très clair si on regarde les technologies que la première révolution quantique dès les années 40 a donné, notamment les lasers, les transistors, etc.
Donc on le voit, il y a voilà, des applications très concrètes. Ça permet le développement de la physique et du modèle standard de la physique des particules, donc c'est pas rien. Et malgré tous ces succès et ces développements, il reste un hic quantique. Ce hic, c'est un Français qui va contribuer à le résoudre. Il s'appelle Alain Aspect. Il est prix Nobel en 2022, mais en 2005, le CNRS avait eu la bonne idée de lui remettre la médaille d'or, sa médaille d'or. Et pourquoi ? Pour ses travaux sur l'intrication quantique.
À 58 ans, Alain Aspect vient d'obtenir la médaille d'or 2005 du CNRS. Un prix de plus pour ce physicien dont la carrière avait démarré par un coup d'éclat dans les années 70. Le chercheur va mettre fin à un débat scientifique vieux de 35 ans qui opposait Bohr à Einstein.
Grâce à une avancée théorique due à John Bell, un grand physicien du CERN, j'ai pu monter une expérience qui a pu trancher ce débat. Le résultat, ça a été que Bohr avait raison et Einstein avait tort. Mais j'ajoute tout de suite qu'en fait, grâce à cette discussion, Einstein nous avait montré qu'il a une propriété extraordinaire de la physique quantique, qu'on appelle l'intrication, qui a été révélée par les résultats de cette expérience. Et cette propriété est tellement extraordinaire qu'aujourd'hui, elle donne lieu à toute une ligne de recherche, l'ordinateur quantique, la cryptographie quantique.
Entre 1985 et 1992, Alain Aspect rejoint au Collège de France les équipes de Claude Cohen-Tanucci, qui obtiendra le prix Nobel de physique. Aujourd'hui, le physicien dirige à Orsay le groupe d'optique atomique qu'il a lui-même fondé.
Eh bien ici, c'est une expérience récente sur les lasers à atomes. On pourrait par exemple essayer d'injecter ce laser à atomes dans un interféromètre à atomes qui pourrait donner un appareil extraordinairement sensible pour mesurer les petites irrégularités du champ de pesanteur terrestre qui vous donne des indications sur la composition du sous-sol. Y a-t-il une nappe de pétrole sous vos pieds ? Vous pouvez le savoir en regardant les légères variations du champ terrestre.
Voilà Hippolyte Dourdan, la voix d'Alain Aspect, célèbre depuis quelques années grâce à son prix Nobel, mais on l'a longtemps ignoré, même pour la communauté des physiciens, il était un petit peu dans un espace dans l'ombre, quoi. Il œuvrait un petit peu en maverick, vous me disiez Mathilde Fontaine tout à l'heure, un petit peu comme un cas isolé. Cette intrication quantique, pourquoi elle ouvre la porte finalement d'une certaine façon à la deuxième révolution quantique, déjà à peine 60 ans après la première, et qu'est-ce qu'elle va ramener comme curiosité, comme bizarrerie dans cette pensée quantique?
Alors, peut-être que je peux expliquer le plus simplement possible ce que c'est que l'intrication.
Bien sûr.
Si nos auditrices et nos auditeurs veulent retenir juste une phrase, je reste dans l'abstrait encore une fois, parce que malheureusement, on marche souvent dans l'abstrait pour comprendre ce genre de phénomène-là, c'est l'incapacité de séparer de façon mathématique des objets, en fait, tout simplement. Et donc, pour ceux qui se souviennent de leur cours de maths, sans doute au collège, il y a quelque chose qui s'appelle la factorisation. C'est on transforme une addition en une multiplication. Et ben là, en fait, on essaye de faire ça avec des phrases quantiques qui portent sur des particules. Et quand on n'arrive pas à le faire, on a ce qu'on appelle de l'intrication. La bizarrerie qu'on va avoir, il y a plusieurs façons en fait d'interpréter ce qu'est l'intrication, mais grosso modo, en fait, on va avoir deux systèmes qui, de fait de cette inséparabilité mathématique, ne peuvent pas être pensés comme deux objets séparés. Ce qui, la phrase paraît déjà en fait très paradoxale.
C'est hyper simple.
ou sinon, je peux vous donner une type de phrase. Alors, je vais redémarrer peut-être avec les bases. Donc, en logique classique, on marche avec des 0 et des 1, des bits. Mm-hmm. En logique quantique, on a l'analogue du 0, l'analogue du 1, mais on a aussi un nouveau type d'état, un nouveau type de phrase qui s'appelle des états superposés. On peut avoir 0 plus 1. 0 plus 1, on n'additionne pas des nombres, ça ne fait pas 1. On additionne des phrases logiques, d'accord ? Ou des phrases quantiques, qui vont correspondre à des états de particules ou l'état d'un système. Ensuite, on peut avoir décrire une phrase quantique qui va porter sur deux particules. Donc, ma particule A est dans l'état 0 et ma particule B est dans l'état 1, par exemple. Sauf qu'encore une fois, on a le droit de faire des additions de phrases en logique quantique. C'est vraiment un langage différent, en fait. Vous imaginez que c'est comme si je vous parlais là, mais sauf qu'on parle avec des additions de phrases. On viendra plus tard qu'est-ce que ça peut dire d'un point de vue interprétatif. Mais vraiment, mathématiquement, c'est vraiment ça. C'est juste un nouveau langage, en fait. Tout simplement, on peut faire des additions de phrases. Et donc, par exemple, on pourrait avoir une addition de phrases. Ma particule A est dans l'état 0 et ma particule B est dans l'état 0. Plus ma particule A est dans l'état 1 et ma particule B est dans l'état 0. Là, il n'y a pas de séparabilité. De non-séparabilité, pardon, parce que je peux justement faire ce petit outil de factorisation et dire, il y a ma particule A qui est dans un état plus, ma particule B qui est dans l'état 0. Donc là, il n'y a pas d'intrication. Il y a ma superposition pour une particule, il n'y a pas d'intrication. L'intrication vient quand on a une corrélation parfaite ou complètement imparfaite. Donc ma particule A est toujours dans l'état 0 quand ma particule B est dans l'état 0, plus ma particule A est toujours dans l'état 1 quand ma particule B est dans l'état 1. Et vous voyez que là, on ne peut pas les séparer. Ça veut dire que peu importe ce qu'on fait sur une des particules, l'autre va la suivre indépendamment de leur distance, et c'est ça ce qui est complètement fou, c'est que ça transcende en fait les notions d'espace-temps. C'est vraiment, encore une fois, une non-séparabilité mathématique.
Oui, parce que souvent, pour expliquer l'intrication, on dit un lien par-delà l'espace et le temps entre deux particules, on dit quand on agit sur une particule, immédiatement ça fait réagir l'autre particule. Alors là, les gens nous disent, mais alors, ça veut dire qu'on peut communiquer plus vite que la lumière. Et donc là, on dit, ah non, pas du tout, pas du tout, on peut pas transmettre d'informations. Mais tout de même, ça reste quelque chose d'étrange. Et ça reste quelque chose
c'est
qui,
complètement
de nouveau,
contre-intuitif.
Réinterroge aussi ce que la quantique veut dire du monde en cette année. Donc avec Bell en 64 et après en 82 avec Alain Aspect, on a de nouveau le surgissement d'un phénomène qui interroge sur de quoi parle la quantique.
Oui, tout à fait.
Et vous parlez de langage, on va lentement glisser vers cette idée de, tout à l'heure vous parliez de bits, informatique 0, 1, là on parle de langage, de langage informatique, donc on va doucement glisser vers l'information et traiter finalement l'information comme un phénomène quantique. C'est à partir de ces travaux d'Alain Aspect vraiment que se plantent les premières graines de l'informatique quantique, Hippolyte Dourdan ?
Tout à fait, l'intrication ça va être vraiment la base en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui la seconde révolution quantique, qui est, alors c'est vraiment un changement de paradigme dans notre façon de penser la théorie, jusqu'aux expériences d'Aspect et d'autres expériences aussi qui vont ensemble. On pense vraiment cette théorie comme la théorie qui décrit ce qu'on appelle avec des gros guillemets l'infiniment petit, donc le comportement de la lumière et de la matière à toute petite échelle. Pas super bien défini, toute petite échelle, on en reviendra aussi peut-être plus tard dans l'émission. Mais voilà, jusqu'à présent, on pense vraiment la physique quantique comme presque vraiment une physique atomique, voilà, et de la lumière. Avec cette notion d'intrication, avec cette idée justement d'abstraction, donc on n'aura plus des bits, on appelle ça des
qubits,
des bits quantiques.
Ouais.
Ça va vraiment venir à partir de l'intrication qui va être la ressource fondamentale de cette information quantique. Et on pense vraiment maintenant la théorie quantique comme je le disais, plus seulement une théorie physique du tout petit, on la pense vraiment comme un nouveau langage. Et qui dit nouveau langage, dit nouvelle logique. Qui dit nouvelle logique, dit nouvelle informatique. Parce que vous savez que l'informatique repose sur les 0 et des 1, l'informatique classique. Là, on va essayer de développer une informatique quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui va reposer donc sur l'analogue quantique du bit.
Shane Mansfield, donc à partir de là, se développent des notions comme la cryptographie quantique, la téléportation quantique, l'ordinateur quantique, dont vient de parler à l'instant Hippolyte Dourdan. Il y a aussi une phrase assez célèbre qui parcourt un peu cette histoire des années 70-80 dans le domaine de la physique quantique. C'est une phrase en anglais qui dit « Shut up and calculate ». Vous êtes anglais, vous allez nous aider à traduire cette phrase et nous dire finalement à quoi elle fait référence et à quel état d'esprit dans la collectivité des chercheurs elle renvoie.
Oui, je tiens à préciser que je suis irlandais.
Irlandais, pardon, oh là là.
Je suis anglophone. Hein,
je suis désolé pour l'insulte.
Alors oui, c'est vrai, cette phrase est particulièrement pernicieuse. Moi-même, j'ai gardé des mauvais souvenirs de mes cours de physique vers la fin de mes études, où effectivement, c'est devenu un peu tais-toi et calcul. On avait appris toutes les théories et puis il s'agissait juste d'appliquer ces théories. Et j'ai trouvé ça vraiment triste, parce que les questions qui m'a motivé, et je pense que les questions qui fascinent et qui motivent des jeunes pour rentrer dans le dans la physique sont vraiment les grandes questions, les questions qu'on a posées tout au long de cette émission. Mais oui, c'est vrai que c'est devenu un peu ça. Mais cette deuxième révolution quantique, ça vraiment ça fait rentrer encore ces questions très fondamentales. Et l'informatique quantique d'autant plus. On pourrait penser que l'informatique quantique, ça devrait être le tais-toi et calcul par excellence, mais en fait pas du tout. Quand on fait de l'informatique quantique, on va essayer non seulement de construire des machines, mais on va essayer de construire toute la logique des machines. On va essayer de concevoir des algorithmes pour ces ordinateurs quantiques, faire de la programmation. Et comme on a dit, c'est un nouvel langage. C'est pas du tout comme raisonner ou comme écrire des lignes de code qu'on fait aujourd'hui pour les ordinateurs classiques. Il faut repenser tout ça. Et on est sans boussole si on n'a pas d'intuition. On a dit que c'est très contre-intuitif, le comportement du monde quantique. Mais quand même, on peut commencer à avoir certaines intuitions, on peut commencer à avoir une réflexion sur comment fonctionne l'intrication, ce que ça va donner quand on combine des systèmes, etc. Et ça peut vraiment nous aider à concevoir des algorithmes. Et je pense qu'on voit ça depuis le début de l'informatique quantique, en fait. Je pense que David Deutsch, qui était le concepteur des premiers algos pour les ordinateurs quantiques, lui, déjà, il réfléchissait en termes des interprétations de la mécanique quantique. Lui, il était proponent de la théorie des multiples univers. Par exemple, il réfléchissait en termes de ça quand il concevait ses algos. Il avait cette idée que s'il y a des multiples univers, moi je vais juste calculer tout en parallèle, dans chaque fois dans un univers parallèle, je vais essayer de combiner ça d'une certaine manière. Par la suite, on sait que c'est pas exactement comme ça que fonctionnent des ordinateurs quantiques, mais peu importe, c'est ces réflexions-là qu'ont mené aux premiers algorithmes quantiques. Et donc, je pense que c'est très vrai que cette deuxième révolution quantique, ça réintroduit une sorte d'urgence à poser et à répondre à ces questions très, très fondamentales sur la nature de la réalité derrière la physique quantique.
Hippolyte Dourdan.
Oui, peut-être juste pour que les personnes qui nous écoutent comprennent un peu le lien entre les expériences d'Alain Aspect et justement ce dont on parle, cette nouvelle révolution quantique vers l'informatique quantique. En fait, qu'est-ce qu'elles ont montré, ces expériences ? On va peut-être pas rentrer dans toute l'histoire parce qu'on pourrait faire une émission entière dessus. mais donc le terme technique derrière, c'est que il a démontré qu'on pouvait avoir une violation des inégalités de Bell, pour le dire joliment. Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? S'il y a encore une phrase à retenir, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y a des corrélations dans la nature. Vous savez, des corrélations, c'est quand on fait des études statistiques et on se rend compte qu'il y a des choses qui sont liées les unes entre les autres. Il y a des corrélations dans la nature qu'on ne peut pas expliquer de façon classique avec notre logique classique. C'est exactement ce qu'il faut retenir des expériences d'Alain Aspect. Il montre ça. Et il y a d'ailleurs un philosophe à l'époque, philosophe et physicien, qui s'appelle Abner Shimoni, il me semble qu'il est cité dans le dossier, qui disait que, mais en fait, c'est de la métaphysique expérimentale. On a démontré que une limite de notre logique classique avec une expérience. Et c'est ça qui est complètement, complètement dingue.
Mathilde Fontaise.
Et pour revenir à ce que disait Shane Mansfield à l'instant aussi, c'est ce qui a motivé et un peu impulsé toute l'énergie de ce dossier, puisque toutes les expériences, toutes les nouvelles expériences théoriques et toutes les nouvelles questions théoriques qu'on se pose aujourd'hui sont issues de cette reformalisation de la mécanique quantique, de la physique quantique, avec ce langage de l'information, de l'informatique.
Cette histoire de la physique quantique, c'est un peu comme un cycle ascendant. On monte à chaque fois d'un étage, on retombe sur des applications très concrètes qui nous font nous poser des questions extrêmement théoriques. Ces questions théoriques qui vont être testées expérimentalement. Vous en parlez très bien, Mathilde Fontaise et Hippolyte Dourdan, qui faites partie des personnes interrogées dans ce dossier. Vous en parlez très très bien. On va y venir dans un instant, mais avant ça, on va faire une petite pause musicale avec le retour du roi, le grand Bill Callahan.
I saw that demon inside me, trying to claim my body as a Tone. Invader, enslaver, little headstone. Tell me, has it grown? The kids in the end will be fine, playing on the island. The island's gone, they will be finer. I've been living too long in my head. Not loving you enough in our bed. Start living my life as if the next day I'll be dead.
The Man I'm Supposed to Be par Bill Callahan dans la science CQFD sur France Culture. Presque une chanson quantique pour nous accompagner aujourd'hui dans les méandres de cette physique qui ne cesse de connaître des développements théoriques et pratiques foisonnants. On parle de ses actualités brûlantes aujourd'hui avec Hippolyte Dourdan, post-doctorant à l'Institut des sciences photoniques de Barcelone, avec Shane Mansfield, directeur de la recherche chez Candela, et avec Mathilde Fontaise, rédactrice en chef de notre magazine partenaire Epsilon, qui place à sa une ce mois-ci un dossier auquel nous faisons écho tout au long de cette heure. Et ben, on va ouvrir les pages de ce dossier ensemble avec vous, Mathilde Fontaise. Ce qu'on va voir, c'est que aujourd'hui, le monde de la physique quantique vit une époque incroyable de dynamisme et d'émulation, pas seulement théorique, mais aussi expérimentale. Les deux vont toujours de pair. On va parler peut-être de quelques-unes de ces voies qui sont explorées et qui nous placent encore une fois face à des vertiges pas possibles, avec trois pistes que vous suivez, la piste de la causalité, la piste du référentiel et la piste de l'observateur, qui deviendraient eux-mêmes quantiques. Si on commence par la causalité, en quoi la causalité peut-elle devenir quantique? Comment les chercheurs, dont Hippolyte Dourdan fait partie, se penchent sur cette question de la causalité qui pose problème d'un point de vue quantique?
Alors, elle pose pas problème au départ. Simplement, on peut se demander, puisqu'on a des particules qui peuvent être superposées dans leur position, est-ce que ces particules ou ces objets quantiques, disons, pour être plus vague, pourraient être superposés en cause et en effet? Et c'est la question que se sont posées les chercheurs il y a une dizaine d'années. Mais je vais laisser Hippolyte prendre leur lait puisqu'il travaille sur le sujet même. Mais effectivement, ça fait partie des trois dynamiques, mm-hmm. des trois dynamiques théoriques qu'on a voulu mettre à l'honneur dans Epsilon. D'une part, ces questions sur la relation de cause à effet et comment c'est possible que, théoriquement, sur le papier, en quantique, et un peu expérimentalement aussi, même si c'est difficile encore d'interpréter ces expériences, on a une superposition de cause et d'effet. De l'autre côté, une quantique qui se pose la question du référentiel. Alors, c'est quoi le référentiel? On a toujours l'image la plus simple, hein, c'est vous êtes dans un train, vous regardez quelqu'un qui lance une pomme ou qui fait tomber sa pomme par terre. La personne sur le quai, sa pomme tombe tout droit. La personne dans le train voit une jolie courbe, puisqu'elle est en mouvement par rapport à la personne qui est sur le quai. Eh bien, cette question des référentiels commence tout juste à être posée en quantique, sachant que les référentiels, c'est la grande question quand même de la relativité, et ça fait le clin
classique, oui.
entre les deux grandes théories qui sont, on le sait, irréconciliables. Et le troisième pan de ça, pour s'enfoncer encore, encore plus loin, c'est la question de l'observateur, qui est une question qui est là depuis le début, hein, qui a une forme de retour aux sources des questionnements quantiques aujourd'hui, mais qui revient avec des expériences de pensée qui, disons, réimplémente une vieille expérience inventée par Wigner, qui s'appelle l'ami de Wigner, qui consiste à, vous connaissez tous peut-être l'expérience du chat.
Bien sûr, voilà. Le chat de Schrödinger.
Le chat de Schrödinger, à la fois mort et vivante dans sa boîte. Et bien là, on met carrément l'observateur dans la boîte qui mesure son atome. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est une question qui provoque des paradoxes, et Jung qui agite et qui questionne le rôle de la quantique et de quoi parle la quantique. Et bien ces trois domaines-là, qui sont des domaines totalement méta, dans le sens où on l'a défini, sont en train aujourd'hui d'occuper toute une armée pacifistes, de théoriciens quantiques et même d'expérimentateurs. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en valeur dans Epsilon.
Hippolyte Dourdan, soldat Hippolyte Dourdan, pacifiste de la physique quantique. Vous êtes appelé au rapport. Alors vous concentrez justement sur cette idée de causalité quantique. Comment une cause et un effet peuvent-elles être mélangées, voire superposées dans le temps? Concrètement, comment vous travaillez sur cette question-là et à quel résultat vous parvenez?
Alors, encore une fois, comme on l'a dit, l'idée, c'est de faire quelque chose de méta. Donc, la physique quantique, comme on le disait, il y a plein de phénomènes bizarres comme la superposition, l'intrication, qui portent sur des propriétés de particules. Sauf que dans les années, on va dire, à partir des années 2005-2007, on s'est dit, on va faire quelque chose d'encore plus rigolo. On va traiter de façon quantique le niveau méta. Donc le niveau méta, c'est le niveau d'abstraction, comme je disais, supérieur. Donc c'est faire de la quantique sur de la quantique. Donc plutôt que de traiter de façon quantique les propriétés d'un photon, par exemple, on va traiter de façon quantique les opérations, les transformations de ce photon. Et donc au niveau méta, on va trouver... exactement ce qu'il y a dans le dossier, on va trouver la causalité, c'est quelque chose de méta par rapport aux propriétés des photons, l'observation, etc. Pour ce qui est de la causalité, il y a deux origines. Il y a une origine qui est purement physique théorique, qui vient de Lucien Hardy, qui essayait en fait de réconcilier la relativité générale avec la physique quantique. Il a essayé de le faire avec le langage de la physique quantique, de l'information quantique. Mmh. Et il s'est dit, en fait, pour les réconcilier... la relativité générale, vous le savez peut-être, le temps est un petit peu bizarre, il n'y a plus le temps universel de Newton, c'est terminé. Il y a vraiment des notions de temps et de causalité qui sont dynamiques. C'est jamais figé, ça dépend toujours de l'observateur. En revanche, tout est plus ou moins déterministe. En physique quantique, c'est un peu l'inverse. En fait, le temps est fixe, c'est un temps un peu tristounet de la Newton. C'est vraiment le temps universel qu'on connaît à peu près, nous, à notre échelle. Par contre, il y a les probabilités, il y a le hasard fondamental de la physique quantique. Et il s'est dit, en fait, si on veut faire la conciliation des deux, il y a peut-être un phénomène qui existe entre les deux, en fait. Et donc, il émet l'hypothèse que ce phénomène-là pourrait exister. Il essaie de le formuler avec le langage de l'information quantique. Et deux ou trois ans plus tard, il y a des chercheurs de l'université de Pavia, donc le groupe de Giulio Chiribella et ses collègues. Eux, ils vont se poser une autre question. Ils vont se dire, en fait, en informatique classique, on sait qu'on peut faire des calculs sur des bits. Il y a d'autres modèles de calcul. Il y a des modèles de calcul méta en informatique classique qui est de faire des calculs pas sur des bits, mais sur des fonctions de bits. C'est aussi des modèles de calcul possibles. Et il se dit, pourquoi on ferait pas ça avec la quantique? Et donc, là vient en fait un espèce de calcul méta-quantique. Et il va retomber exactement sur le phénomène que Lucien Hardy avait prévu. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre ce qu'on appelle le quantum switch, qui, moi, j'aime bien l'appeler le chat Schrödinger causal. Donc, en fait, comme je vous le disais, l'intrication. Le chat Schrödinger, c'est l'intrication. C'est l'intrication entre l'état d'un chat et l'état d'une particule. Donc, la phrase non séparable qui correspond au chat Schrödinger, qu'est-ce que c'est? C'est l'état de mon qubit est zéro et le chat est vivant, plus l'état de mon qubit est un et le chat est mort. Et tant qu'on ne fait pas d'observation, ils sont dans cette espèce de flou ontologique.
Entre deux mondes. Oui.
En fait, c'est l'état quantique de la particule du qubit va contaminer l'état du chat. Et ils sont non séparables de façon mathématique. La phrase logique qui nous permet de les décrire, on ne peut pas les dissocier l'un de l'autre. C'est ça le chat Schrödinger. Et qu'est-ce que c'est qu'un chat Schrödinger causal? On change le chat est vivant et le chat est mort par Alice est dans le passé de Bob et Bob est dans le passé d'Alice.
C'est de la science-fiction.
Alors, et justement, ça n'en est pas. Il y a des expériences qui ont été faites. Aujourd'hui, on le fait avec des photons. Il y a plein de débats. On s'est cassé la tête dans la communauté pour savoir si ces expériences avec des photons étaient vraiment le quantum switch, donc ce chat Schrödinger causal ou pas. Et aujourd'hui, il commence à avoir un consensus dans la communauté. Il a été fait effectivement. On va juste distinguer des espèces de versions faibles et des versions fortes. La version forte n'a pas été faite, mais on a vraiment une version faible. Et en fait, la magie de ce domaine de recherche-là, c'est que ça semble très fondamental. En fait, on découvre des nouveaux phénomènes. En fait, ça s'appelle des phénomènes quantiques d'ordre supérieur, des phénomènes métaquantiques. Et comme on découvre des phénomènes nouveaux, une des premières questions qu'on se pose, c'est comment on peut s'en servir? À quoi ça va servir? Est-ce qu'on peut faire des calculs nouveaux avec ça? Est-ce que ça peut nous donner des avantages informationnels? Et il se trouve que oui, c'est très très productif. Et c'est pour ça que c'est un domaine en émulation. À l'heure actuelle.
Alors, je vous invite, vous qui nous écoutez, à lire ce dossier d'Epsilon pour aller creuser ces questions d'observateurs, notamment. Mais il y a aussi un autre point que vous soulevez, Mathilde Fontaine, c'est vous parlez de ce sondage paru dans Nature en juillet 2025 qui fait état de tout un tas d'interprétations et d'une absence de consensus fort dans le domaine des physiciens spécialistes de la physique quantique pour décrire le monde d'une certaine façon. Alors, que nous dit ce sondage? Quelle question a été posée? Et est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir la communauté des physiciens, finalement, se tirer gentiment la bourre?
Alors, je pense pas qu'il faille s'inquiéter. Et plus ils se disputent, je dirais, mieux c'est. Ça veut dire qu'il y a un intérêt pour savoir justement ce que veut dire la quantique. Et donc, on se détourne du shut up and calculate dont on parlait tout à l'heure. Et effectivement, on a bien aimé et on a eu envie de ressortir ces résultats-là. Donc, c'est donc la revue Nature qui a posé la question à 1100 spécialistes de la quantique au moment donc de la célébration de l'anniversaire cet été. Et donc on a gardé, nous, dans Epsilon, que les 5 interprétations. On appelle ça des interprétations, c'est des propositions sur ce que décrit la quantique vraiment, qui recueille 83% des voix. Donc on laissera sous silence les autres. Et c'est vrai qu'on a, dans ces on va dire presque pour certaines, des familles d'interprétations. Mais pour en citer quelques-unes, je dirais qu'il y a 2 classes. Il y a celles qui disent qu'il y a, on va dire, un monde réel, ou en tout cas qu'on peut y accéder, et celles qui disent qu'on ne peut pas y accéder et que la quantique va décrire l'information qu'on va pouvoir recueillir sur le monde. Tout comme on ne peut avoir que le résultat de la mesure, mais en fait, ne cherchons pas à aller derrière, puisque finalement, la quantique ne nous parle que de ça. Peut-être qu'une autre théorie nous parlera d'autre chose, mais cette théorie-là ne nous parle que de la mesure. Donc on a ces deux types de théories. Et le premier, la théorie, enfin l'interprétation la plus, disons, populaire, la plus répandue de la première catégorie réaliste, c'est l'interprétation des multivers. Donc là, on repart en SF, hein, merci la quantique. Et là, on a l'idée que... Non, le monde existe vraiment, la quantique y a accès, simplement. Cette histoire de statistique, quand on mesure quelque chose, on réduit la statistique, alors qu'avant c'était flou, etc. Ben non, c'est juste que ça apparaît dans plein de dimensions parallèles, et que donc, au moment où je vous parle, la particule est ici, mais en fait, elle est ailleurs, dans un autre univers en parallèle, et encore ailleurs dans un autre état. Donc par exemple, il y a plein d'Antoine Beauchamp, dans plein d'univers en parallèle, qui pour certains penche la tête à droite et d'autres à gauche, etc. Donc ça nous oblige à imaginer un espèce de surenchère comme ça, de monde et de matière, etc. Mais d'un point de vue, donc ça peut paraître un peu bizarre, voire pas très économe, pour prendre le critère du rasoir d'Occam, qui peut permettre de, disons, faire le tri entre des interprétations, des théories et d'autres. Mais c'est une interprétation qui continue d'exister. Et l'autre que j'aime bien et que j'ai envie de citer, c'est celle qui s'appelle le cubisme et qui est portée par un physicien qui s'appelle... Aidez-moi,
Christopher Fuchs,
voilà, et qui lui prend donc complètement l'opposé, et qui part d'une théorie statistique qui s'appelle la statistique bayésienne et qui est utilisée tous les jours en sciences et pas que en technique pour affiner des statistiques sur des choses, et qui dit non, la quantique c'est ça, c'est de la statistique, donc c'est des paris qu'on peut faire sur ce qu'on peut mesurer, et puis on ne peut jamais accéder au monde, et quelque part la question de savoir s'il y a un monde ou pas derrière, c'est pas une question de physique, c'est on la laisse en dehors. Et ces théories continuent de faire débattre, et ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir qu'aujourd'hui, elles le font plus qu'encore qu'avant. Ça me paraît bon signe.
Et c'est très bon signe, puis l'histoire des sciences est faite d'une absence de consensus quand même assez régulière, et c'est important que les chercheurs puissent débattre et échanger, confronter leurs idées. Pour couronner un peu cette discussion sur l'actualité brûlante de la physique quantique, on va partir en reportage, on va aller au musée. Le monde quantique, on le dit depuis le début de cette émission, défie nos intuitions sur le réel, mais pour les non-spécialistes, il est possible d'éprouver ces étrangetés quand l'art et la philosophie s'emparent de la physique pour raconter autrement cette réalité. Bonjour Céline Lausanne.
Bonjour Antoine.
Vous avez visité une exposition qui mêle justement art, science et philosophie au Collège de France.
Oui, il s'agit de l'atelier quantique conçu par une physicienne Aurore Young, une artiste Caroline Delétoile et une philosophe que j'ai rencontrée qui s'appelle Céline Boisserie-Lacroix. Alors en mêlant ces trois approches, on y découvre comment des principes de base comme la dualité, la superposition, l'intrication et comment nos intuitions sont bouleversées comme les notions de causalité ou de référentiel. Et surtout, la fresque historique nous projette devant une œuvre magistrale qui trône au milieu d'instruments phares de l'épopée quantique, le piège à photons de Serge Haroche par exemple, ou le scaphandre à nuages atomiques de Jean Dalibar, ou bien encore le trampoline atomique de Claude Cohen-Tanucci.
On on a quatre grandes vitrines, dont trois en fait exposent des dispositifs en fait qui ont été créés spécialement donc par des chercheurs ici, finalement, et qui sont des dispositifs historiques. Et donc là, on est face à une enceinte à vide.
Une capsule Soyouz.
Alors c'est exactement ça, donc qui a été baptisé hein, par Aurore Young, donc scaphandre pour nuages atomiques, voilà, et donc qui est en fait une enceinte à vide hein, qui permet en fait tout l'enjeu en fait des dispositifs expérimentaux, c'est de pouvoir créer en fait des états atomiques, des états quantiques en fait. Et donc ça suppose des conditions expérimentales qui sont assez extrêmes. Hein. Il faut que ça soit extrêmement vide, extrêmement aussi à des températures très basses. Et donc vous avez aussi deux cavités miroirs hein, qui ont été exposées, donc qui sont aussi un petit
piège
peu...
à photon.
Voilà, piège
ah oui,
à photon.
Pour mettre en évidence
le
de Schrödinger.
Exactement. Donc sur le discours, voilà, c'est toujours aussi, il y a évidemment un discours scientifique et puis aussi un petit peu, peut-être un petit peu plus d'images. Et donc l'objectif, hein, c'est de créer un chat de Schrödinger avec de la lumière. Parce qu'en fait, on est face à deux cavités miroirs. Donc c'est des miroirs qui ont été créés par l'équipe de Serge Haroche dès les années 90. Voilà, ils sont extrêmement polis, très parfaits, alors parfaitement réfléchissants. Et donc ils permettent de manipuler en fait des états quantiques supérieurs. C'est vraiment en plus l'état de superposition et de voir ensuite comment cet état va évoluer au cours du temps.
Voilà, donc le prisme à coupelle,
oui.
Trampoline à atomes.
Donc, c'est un trampoline hein, qui vise à jouer avec des ondes de lumière. Donc là, c'était un prisme en verre hein, donc qui a été. Alors, c'est un tout petit objet, ça peut paraître assez surprenant.
On dirait un diamant.
On dirait vraiment un diamant, il a un côté assez précieux. Et donc,
sa géométrie et sa transparence.
Et donc, lui, il a été vraiment façonné de façon à former un miroir parabolique. Et en fait, cette importance hein, de cette forme-là, elle avait vraiment été soulignée par Claude Cohen-Tanouji et puis également hein, par Jean Dalibard. Hein, donc, c'était vraiment leurs travaux conjoints. Et avec. Donc, il a permis en fait de mettre en place. Là aussi, hein, une série d'expériences pionnières, parce qu'en fait, le cœur des recherches hein, expérimentales qui sont menées ici, c'est vraiment aussi sur les interactions lumière-matière. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a en fait dans les dispositifs présentés, hein, vraiment des dispositifs qui sont à la croisée de l'optique, enfin, même qui sont très centrés sur l'optique, autant pour moi. Non. Donc c'est des expériences d'optique atomique qui permettent d'explorer hein, la nature ondulatoire de la lumière.
Et alors, si on se retourne là, on embrasse un paysage, un tableau.
Alors oui, c'est un tableau monumental, donc qui est une peinture numérique réalisée par donc Caroline de l'Étoile, qui est en fait un hommage à un tableau qu'on trouve en fait au musée d'art moderne, qui est La Fée électricité de Raoul Dufy. Et là, ce que voulait faire Caroline, donc, c'était essayer de se dire pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas aussi une fée quantique. Et donc cette grande toile, en fait, retrace un peu cette épopée quantique. C'est une fresque historique. Donc vous avez à la fois les grandes figures historiques, donc qui étaient les physiciens réunis au congrès Solvay, hein, qui est sur la gauche. Donc c'est un peu les fondements de la quantique. Donc vous retrouvez juste au-dessus donc de ces figures tutélaires hein, l'équation de Schrödinger. À côté quelques figures aussi gréco-romaines. Donc on reconnaît Athéna qui est déesse aussi de la sagesse. Vous avez un penseur, alors qui n'est pas celui de Rodin, mais c'est Démocrite. Voilà, parce qu'il y a eu toute une philosophie, une physique hein, antique. Et on trouve également hein, des grandes avancées technologiques, donc le transistor, les lasers. Voilà.
Et aussi une dimension philosophique avec les dés, le laser.
Oui, alors ça, c'est une très bonne remarque. Alors, c'est une citation, hein, une allusion pardon, à la citation célèbre d'Einstein, hein, « Dieu ne joue pas aux dés », qui, en fait, aussi illustre, montre aussi très directement hein, tous les problèmes finalement conceptuels, philosophiques qu'ont pu soulever la quantique en particulier eu égard aux questions de causalité. Donc l'idée sur la partie droite de la toile, hein, c'est de montrer donc, la quantique actuellement, contemporaine, donc en représentant un ensemble. Exactement. Donc vous reconnaissez donc quelques prix Nobel, en particulier aussi du Collège de France, hein, Serge Haroche, Claude Cohen-Tanouji notamment, Jean Dalibard, plusieurs femmes également hein, qui ont reçu des prix Nobel et qui ont aussi jalonné hein, cette histoire. Et il y a aussi, c'est important de faire intervenir aussi des personnes comme des philosophes. Donc vous avez Karen Barad, hein, Michel Bidbol, Carlo Rovelli, qui a aussi lui développé aussi toute une série d'implications aussi philosophiques autour de, alors métaphysiques, vraiment sur ce que la quantique nous dirait du monde. Hein. Et avec, donc on voit aussi des chercheurs penchés hein, sur une des grandes tables de manipulation.
Des tables optiques avec plein de lasers.
Ouais, qui sont assez fouillées. Donc là, en fait, le tableau est scindé. Donc il y a effectivement ces paires de dés intriqués. Et il est scindé, en fait, par un rayon...
au centre.
Voilà, une sorte de faisceau lumineux qui se termine en cryostat. Et ces rayons hein, qui évoquent, sont une évocation directe de l'expérience des fentes d'interférence d'Jung. Donc voilà, qui a été aussi une des expériences assez importantes hein, dans la création de la théorie. Voilà.
Vous avez parlé d'intuition, de sensorialité et de mesure. Mmh. Et justement, ici, dans cette exposition, on peut télescoper ces points de vue. Mmh. Mais c'est vrai qu'on pose souvent la dichotomie entre philosophie et physique, et pourtant elles sont intimement intriquées. Et même les développements technologiques liés aux principes quantiques amènent des nouvelles questions d'ordre métaquantique, presque. Sur la question de causalité, de commutativité, de référentiel. C'est des choses que vous pouvez aussi appréhender ici de manière figurative.
Oui, absolument, absolument. C'était un peu aussi de faire un peu le pari que peut-être en croisant les regards, donc d'une physicienne, d'une artiste, d'une philosophe, peut-être qu'on pouvait aussi amener un peu... Alors, le terme, il est à diffracter, en fait, nos regards sur ces réalités-là. Alors, le terme de diffraction, c'est un terme de physique.
Oui, qui n'est pas gratuit.
Voilà. Mais qui a été aussi beaucoup réemployé par les théories féministes, voire même des philosophes. Alors, je pense à une philosophe comme Karen Barad, qui est donc à la base, c'était une physicienne, donc qui a beaucoup, qui a commencé sa carrière comme ça, et puis qui ensuite, en fait, s'est tournée progressivement à l'image de Bohr qu'elle a beaucoup étudiée vers la philosophie.
Merci beaucoup Céline Lozen, on retrouve tous vos reportages dans le podcast La Science au Labo, sur l'application Radio France bien sûr, mais aussi sur la page de La Science au Labo sur le site de France Culture. Shane Mansfield, on approche déjà de la fin de notre discussion. On a parlé de l'aller-retour constant de l'histoire de la physique quantique dans l'histoire de la physique quantique entre théorie et application. On évoquait avant le reportage les nouvelles pistes théoriques suivies par les chercheurs en physique quantique. Vers quelles applications on peut aller à partir de ces nouvelles pistes théoriques ouvertes? C'est une question vaste.
Oui. C'est vaste parce que l'informatique quantique, c'est aussi grande que l'informatique classique. C'est un peu comme si on posait la question dans les années 40 aux développeurs des machines, des ordinateurs classiques de l'époque, à quoi ça va donner lieu. Et ils auraient très bien pu imaginer à peu près les mêmes choses qu'on va dire aujourd'hui, des applications dans la cryptographie. Calcul des trajectoires, ils auraient peut-être dit à l'époque. Aujourd'hui, on pourrait faire des choses un peu plus avancées, mais parfois on parle des algorithmes extrêmement efficaces pour faire de la logistique dans l'industrie, ou ils auraient pu parler peut-être de la simulation des molécules pour aider avec la conception des produits pharmaceutiques. Et là encore, c'est quelque chose qu'on explore aujourd'hui, sur lequel on avance très rapidement avec l'informatique quantique, tout ça. Mais ce qu'ils n'auraient pas pu peut-être prévoir dans les années 40, 50, même 60, plus tard, ils n'auraient pas pu prévoir toutes les avancées qu'on connaît aujourd'hui, qui sont omniprésentes dans notre monde, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les intelligences artificielles, les mails électroniques. Et donc, je pense que c'est un peu comme poser la même question. Mais la puissance des ordinateurs quantiques, c'est déjà on sait que ça va donner des avancées énormes en matière de cryptographie, de simulation pharmaceutique, de logistique pour l'industrie. Et ça promet ou déjà on voit les débuts des performances qui touchent à la limite de ce qui est possible avec les machines classiques.
On attend du coup le grand soir de
puissance.
Je suis obligé de vous interrompre malheureusement, Shane Mansfield, je suis obligé de vous interrompre puisqu'on arrive déjà au terme de cette émission, mais on attend avec impatience le grand soir de cette troisième révolution quantique. Merci beaucoup à tous les trois, Hippolyte Dourdan, Shane Mansfield et Mathilde Fontaise. Mathilde, je rappelle qu'on peut lire votre dossier intitulé Métaphysique quantique, les premières expériences dans les pages d'Epsilon ce mois-ci, et vous l'aurez compris, c'est vraiment passionnant. Mais tout de suite, on en vient à la chronique avec science, avec Alexandra Delmo.
Tout Toute la semaine, on s'intéresse à l'expérimentation animale et comment s'en passer, avec aujourd'hui les organoïdes et les organes sur puce. On les appelle aussi les modèles ex vivo, c'est-à-dire à mi-chemin entre le in vivo chez l'animal et le in vitro dans les boîtes de pétri. Parce que ces modèles in vitro, dont on a parlé hier, se heurtent à une limitation. Ils sont en deux dimensions. Les boîtes de pétri sont plates, on fait pousser les cellules côte à côte, en couches régulières, et finalement, cela ne reflète pas la réalité d'un tissu vivant. Pour répondre à cela, une nouvelle technique se répand dans les laboratoires, ce sont les organoïdes. Ces structures cellulaires en 3D ont commencé à voir le jour il y a une trentaine d'années, mais c'est la maîtrise des cellules souches dans les années 2010 qui a donné un coup d'accélérateur à ce nouvel outil. Maxime Mahé est chargé de recherche INSERM à l'Institut des maladies de l'appareil digestif de l'Université de Nantes.
L'avantage des organoïdes, c'est que ce sont des assemblages multicellulaires, pour la plupart qui proviennent souvent d'un seul type cellulaire, qui vont s'auto-organiser et pouvoir recréer la micro-architecture d'un organe et reproduire une partie des fonctions de celui-ci. On peut utiliser les organoïdes dans le cadre de la recherche fondamentale. Donc, nous, au laboratoire, elles nous servent à répondre à des questions de recherche vraiment appliquées à des pathologies, par exemple. Et si on va un petit peu plus loin, on peut bien sûr les utiliser dans le cadre de cette médecine de précision, puisqu'un organoïde peut provenir d'un patient, et dans ce contexte, on va pouvoir utiliser, tester des médicaments et regarder la réponse de cet organoïde de patient à ces différents médicaments. Si on va un petit peu plus loin, on peut les utiliser, et ça ce sont des recherches qui sont en cours, en termes de source de cellules en tant que médicaments. Aujourd'hui, il y a pas mal de recherches qui s'intéressent à l'utilisation de ces organoïdes pour de la transplantation, pour remplacer des parties d'organes.
Les organoïdes se développent dans une matrice gélifiée qui leur permet de croître en trois dimensions. On leur ajoute ensuite un cocktail de facteurs de croissance qui les guide pour qu'ils s'organisent spontanément, imitent la bonne structure et parfois même certaines fonctions d'un organe donné. Par exemple, les organoïdes intestinaux peuvent sécréter et absorber des nutriments. Les organoïdes de cellules cardiaques sont capables de se contracter, tandis que les cérébroïdes génèrent une activité électrique comme des neurones. Ce qui soulève d'ailleurs quelques questions éthiques. Il existe deux limites majeure. D'abord, la variabilité. Chaque organoïde est assez unique dans sa structure parce que l'environnement n'est pas contraint. Et c'est un problème puisqu'en recherche, on a besoin de modèles standardisés. Et puis, seconde limite, ils ne sont pas connectés au reste de la circulation de l'organisme. La solution, ce sont les puces. Des puces microfluidiques. C'est un développement qui a eu lieu en parallèle des organoïdes et qui parfois se combine. Par exemple, on peut mettre des organoïdes sur puces ou bien prendre directement des cellules spécialisées pour en faire un organe sur puce. Anne-Marie Gay est directrice de recherche CNRS et co-directrice avec Maxime Mahé du PEPR Organes et Organoïdes sur puce.
Un organe sur puce, hein, c'est un petit dispositif qui fait quelques centimètres carrés de surface et quelques, je dirais, millimètres d'épaisseur. Alors, il est généralement fait soit dans des polymères, des matières plastiques, soit dans du verre. Donc voilà, ça représente, c'est pour ça qu'on appelle ça une puce. C'est un petit peu par analogie avec les puces microélectroniques. Et dans cette puce, il y a des canalisations, des réservoirs. Il peut y avoir aussi des capteurs qui sont intégrés ou des actionneurs qui vont reproduire des fonctionnements qu'on trouve dans le corps humain. Par exemple, les neurones sont soumis à des impulsions électriques. Les cellules musculaires ou cardiaques sont soumises également à des stimuli électriques. Les cellules pulmonaires, ben quand vous respirez, vos parois pulmonaires se déforment. Et donc, dans ces organes sur puce, on peut reproduire ce mouvement, c'est-à-dire mettre vraiment les cellules pulmonaires dans leurs conditions de fonctionnement normales.
Et on peut mettre ces puces en série, soit en ajoutant les mêmes organes, soit en plaçant des organes différents, ce qui permet de reproduire les interactions entre organes et donc se rapprocher du fonctionnement de l'organisme. C'est une technologie qui est encore émergente. La suite, c'est de les mettre dans la main des cliniciens, dans les hôpitaux, pour faire les meilleurs choix thérapeutiques possibles, en lien donc avec cette médecine personnalisée. Les organoïdes et organes sur puce sont donc une méthode alternative possible, mais il faut être honnête, elle ne pourra à terme que substituer une partie de l'expérimentation animale. C'est une méthode de réduction et pas de remplacement en l'état actuel de la recherche.
Merci beaucoup Alexandra Delbo. Cette série sur l'expérimentation animale et ses alternatives s'achèvera demain 6h52 dans les matins avec une dernière chronique consacrée aux jumeaux numériques. Un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD et merci à Timothée Hubert aujourd'hui à la technique. Vous pouvez réécouter notre émission sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans la Science CQFD et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.